Prince. Vous allez tout rater. Le prince du journal imprévisible, c'est Marc Bourreau, tous les matins vers 7h45. Des photos sonores qui revisitent un sujet de société, un thème d'actu, grave ou aigu. Merci, à demain Marc Bourreau.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Bonjour Monsieur Barou.
Bonjour Monsieur Abicaire.
Alphabet, la maison mère de Google, vient de franchir la barre des 4000 milliards de dollars en bourse. Ouais. Peut-on parler d'un exploit ?
Oui, on peut parler d'un exploit parce qu'atteindre une telle valeur, c'est à la fois rare et j'ajoute exceptionnel. C'est rare parce qu'il n'y a qu'une autre entreprise qui vaille plus en bourse aujourd'hui, c'est Nvidia, le roi des puces pour l'IA. Et seulement deux autres entreprises américaines, bien sûr, avaient franchi cette barre l'an dernier avant de rechuter, Apple et Microsoft. Et c'est exceptionnel parce que en mai dernier, Alphabet valait deux fois moins de 2000 milliards de dollars. Sur l'ensemble de 2025, il y a eu des hauts débats, la maison mère de Google, YouTube, Android ou Waze a bondi de 65%. Alors croître autant quand on vaut déjà autant, c'est dingue. En une journée, quand le cours de bourse d'Alphabet bouge de 1%, ça fait plus que la valeur totale d'un groupe comme Orange, par exemple.
Comment expliquez-vous une telle performance?
Il y a un an, Google affrontait deux vents contraires. On les disait à la traîne dans l'IA, et puis on attendait des sanctions de juges américains qui auraient pu être très très lourdes. Finalement, la justice n'a pas puni Google en disant justement que la concurrence dans l'intelligence artificielle était de nature à fragiliser le groupe. Ça, c'était la première bonne nouvelle de l'an dernier. Deuxième, avec la dernière version de son IA, Gemini, Google, en fait, commence à faire mieux que rattraper son retard. Aujourd'hui, pas mal d'experts estiment qu'ils sont même plus performants que le ChatGPT d'OpenAI. Et on se dit aussi qu'Alphabet est le mieux placé de tous les géants pour toucher le plus de monde possible avec son IA et pour réussir à monétiser plein de nouveaux services. La fonction search de Google concerne 5 milliards de personnes par mois, c'est énorme. Android sur les smartphones, c'est 4 milliards d'utilisateurs par mois. YouTube, 2 milliards et demi. Cette semaine, ils ont aussi signé un contrat pour faire monter Gemini à bord des iPhones d'Apple. Ils ont lancé avec la grande distribution des fonctions shopping dans Gemini. Ça devrait générer à la fois du chiffre d'affaires sous forme de commission et des publicités. Dans le même temps, les autres métiers historiques du groupe, comme la pub ou le cloud, se portent très bien, avec des croissances à deux chiffres sur des volumes considérables. Et enfin, Alphabet, il faut le savoir, est l'un des très rares acteurs de l'IA qui, dans ses data centers, fait tourner ses serveurs sur des puces qu'il a conçues lui-même. Lui n'est pas un gros client de Nvidia. C'est donc une source d'économie et ça pourrait même devenir une gigantesque source de revenus, car Google pourrait commencer à vendre des super puces à d'autres groupes. Certains ont eu peur pour Google, mais aujourd'hui, tout va bien et c'est pour ça que la bourse récompense.
Et c'est vrai qu'on y est de moins en moins sur Google, en tout cas dans le moteur de recherche classique.
Moi j'y vais encore quand même de temps en temps.
Moi aussi j'y vais, mais je fais de plus en plus de recherches via ChatGPT ou sur Google Gemini, voire sur Grok. Merci David Barou, je vous dis à demain.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Guillaume, bonjour.
Bonjour David.
C'est reparti pour un débat budgétaire à l'Assemblée. Voilà pourquoi je disais que vous étiez un symptôme d'une immense patience. Sébastien Lecornu croit-il encore pouvoir aboutir sans 49.3 ou sans ordonnance ?
Il n'y croit évidemment pas, mais il ne veut pas encore le dire. Et pour cause, le renoncement au 49.3, c'était le geste par lequel il était entré en négociation avec le PS. C'était la décision dont il avait fait sa marque de fabrique, son coup d'envoi d'une supposée nouvelle manière de gouverner. Donc revenir sur cet engagement dès le début de ce nouveau round budgétaire, ce serait avoué, ma méthode n'a pas marché. Vous savez, le Premier ministre me fait penser un peu à un nageur qui aurait tenté la traversée de la Manche au milieu de la tempête, et qui, à quelques encablures de l'arrivée, se rendrait compte qu'il ne peut pas y arriver. Mais il se dit, si près du but, ce serait quand même rageant de ne pas essayer de nager jusqu'au bout. Alors, pour quelques heures encore, le cornu va négocier afin de pouvoir dire, le jour où il se résoudra au 49.3 ou aux ordonnances, voyez, j'ai vraiment tout tenté jusqu'au bout.
Mais avec le 49.3 ou avec les ordonnances, le Premier ministre ne s'expose-t-il pas à la censure?
Si, bien sûr, mais de manière différente. Si il choisit l'option du 49.3, c'est avec une garantie de non-censure de la part du Parti Socialiste, alors que les mêmes socialistes préviennent qu'en passant par les ordonnances, Sébastien Lecornu prendrait le risque d'une censure. Alors, pourquoi cette différence? C'est là qu'on entre dans les subtilités des procédures parlementaires.
C'est là que les Français comprennent plus rien.
Alors, on va essayer de dire un peu les choses. Avec le 49.3, le budget qui serait adopté, là encore, si la censure n'est pas votée, c'est celui que déciderait le gouvernement. Autrement dit, il pourrait y intégrer toutes les concessions faites au PS. Alors que les ordonnances devraient obligatoirement reprendre le texte initial présenté par le gouvernement, donc sans ces concessions. Sauf s'il y avait moyen de négocier le contenu des ordonnances, mais ça semble être un casse-tête juridique. On comprend alors la tentation de Lecornu de faire des concessions au PS, notamment en matière fiscale, pour sécuriser leur non-censure.
Alors, céder au PS ou chuter, c'est l'alternative pour Sébastien Lecornu.
Sur le papier, oui, mais dans les faits, pas tant que ça. La politique, on le sait, c'est du bras de fer et un peu de bluff. Alors oui, c'est vrai, hein, le PS exige toujours plus d'impôts et plus de dépenses pour ne pas censurer, mais si, par hasard, le Premier ministre leur disait non, vous avez eu la retraite, ça suffit comme ça, que feront-ils ? Vont-ils vraiment renverser le gouvernement ? Lecornu les a prévenus il y a quelques jours, censure égale dissolution. Or, maintenant qu'ils ont rompu l'alliance avec les Insoumis, les socialistes savent qu'ils risquent très gros en cas de nouvelles législatives. Donc le Premier ministre, plutôt que de céder à la tentation de nouvelles concessions, aurait finalement, s'il le voulait, encore les moyens de tenir sans sacrifier totalement le budget.
Eh bien, on saura ça dans les jours qui viennent. Guillaume Tabar, c'était l'éditorial avec Le Figaro. Vous le retrouvez sur la chaîne Radio Classique, YouTube et sur lefigaro.fr, évidemment, en vidéo. Et maintenant, l'invité de la matinale. Il a publié fin 2024 Le bouleversement du monde, l'après 7 octobre chez Plon. Il est spécialiste du monde arabo-musulman, fin connaisseur de l'Iran. Avec lui ce matin, nous allons essayer de comprendre ce qui se joue en ce moment dans ce pays, les intentions américaines, les marges de manœuvre du régime en place et les différentes options de l'opposition au Mollah. Gilles Kepel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. 2500 morts au bas mot, estimés par différentes ONG. Trump a encouragé les manifestants en Iran à prendre les institutions. L'aide est en route, a-t-il tweeté. Comment interpréter l'attitude américaine dans le contexte iranien?
Trump est un peu contraint, d'une certaine manière, de continuer sur la lancée de l'opération l'élimination de Maduro au Venezuela. Ça s'inscrit dans sa volonté de redéfinir le monde, ça passe par le Groenland, etc. Mais aujourd'hui, en Iran, visiblement, il se heurte quand même à une résistance imprévue du régime. Puisque les informations qu'on a, dont il faut bien sûr les prendre avec prudence, indiquent qu'il n'y a pas pour l'instant de fissure véritable à l'intérieur du pouvoir. On n'a pas vu de modérés ou de réformateurs, entre guillemets, se dissocier des plus durs, ces bruits selon lesquels Khamenei était en train de faire ses bagages pour aller rejoindre Bachar al-Assad à Moscou. Pour l'instant, il n'y a rien de vérifié là-dedans. La répression est d'une violence absolument inouïe. On a effectivement les estimations les plus basses, c'est 2500 morts, d'autres vont jusqu'à 6000. On annonce une première pendaison de manifestants pour demain en public. Et aujourd'hui, le corps du régime semble ne pas céder en utilisant une répression d'une violence extraordinaire. Alors, en réalité, c'est reculer pour mieux sauter, puisque l'Iran n'est plus viable. Il n'y a plus d'eau, la crise financière est absolument gigantesque, et puis surtout, le système iranien a perdu ce qui faisait sa garantie nucléaire, si j'ose dire, sans jeu de mots, c'est-à-dire sa force de dissuasion, avant même le nucléaire, qui n'est pas opérationnel pour l'instant, même s'ils ont toujours de l'uranium. Il y avait le Hezbollah et les autres. Le Hezbollah servait à attaquer Israël préventivement pour empêcher que l'Iran soit lui-même attaqué. Tout ça, c'est par terre, ça n'existe plus.
Un mot, Gilles Kepel, sur l'effondrement économique. Certes, il y avait l'embargo, mais il y a quand même des ventes de pétrole à la Chine qui continuaient par des moyens complexes. Comment vous expliquez ? C'est la même médiocrité économique qu'au Venezuela, ou c'est une autre
source de problème ? Il y a de ça aussi, parce que l'Iran dispose de réserves gigantesques de gaz et de pétrole, surtout de gaz. gaz. Et un peu comme au Venezuela, mais pas au même point, l'appareil a été détruit. La contrebande va partout, c'est-à-dire qu'en Iran, il y a des pénuries d'essence parce que l'essence étant subventionnée à la vente, des contrebandiers vont la proposer au Pakistan voisin avec un bénéfice. Il y a plus d'eau. On avait même pensé faire déménager. Le président avait annoncé que les habitants de Téhéran devaient déménager parce qu'ils pourraient plus les faire désaltérer. Donc tout ça aujourd'hui indique que les fondamentaux sont absolument catastrophiques et donc le système ne peut pas continuer. Mais à ce jour, pour l'instant, il fait bloc avec une violence inouïe dans la répression des manifestants.
Est-ce qu'il a le choix? Est-ce qu'il a le choix? Je lui trouve pas d'excuses, hein, que ce soit pas mal interprété, mais dans la spirale dans laquelle il est engagé, la pression étrangère, la pression des oppositions, parce qu'elles sont multiples, j'imagine, est-ce que le régime des Mollahs n'a plus d'autre choix que d'être non seulement liberticide, mais létal?
Oui, aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils pensent pouvoir être leur mode de survie, en attendant, en faisant le dos rond, si j'ose dire, et en attendant que ça passe. D'autant plus que dans l'environnement du Golfe, on redoute, c'était déjà le cas lors de la guerre des 12 jours, que tout s'effondre en Iran à la manière du régime de la chute de Saddam Hussein, qui avait déclenché le terrorisme, le Daesh, etc. Et les États voisins sont inquiets parce que des coups de queue de la bête en train d'agoniser, ça pourrait vouloir dire des attaques de pétroliers dans le Golfe, le blocage du détroit d'Ormuz. Alors ça ferait remonter le pétrole qui est très bas en ce moment, qui est à $58 le baril à peu près. Et de ce fait, il y a une grande prudence de l'environnement, y compris des Émirats, des Saoudiens et autres qui ne portent pas forcément l'Iran dans leur cœur, mais qui redoutent les effets négatifs sur la stabilité de leur propre système.
Gilles Kepel, on parle de l'aide, ou c'est Donald Trump qui a dit l'aide arrive. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous voyez derrière cette formule l'aide arrive?
C'est cryptique. Je ne sais pas si lui-même sait très bien ce qu'il a en tête. On peut bien sûr penser qu'il y aurait une sorte de remake, si je puis dire, de l'opération de la fameuse guerre des 12 jours du mois de juin dernier, c'est-à-dire des ciblages, par exemple, des casernes des gardiens de la Révolution, les passes d'Aran, qui pour l'instant ne sont pas encore véritablement entrés dans la répression.
C'est un autre seuil de violence, les passes d'Aran.
Voilà, un autre seuil de violence qui indiquerait que le régime doit céder ou une solution, si j'ose dire, à la Maduro, où on a l'impression maintenant que cette affaire a quand même été en partie téléphonée et que Delcy Rodriguez, donc qui assume la transition, en fait, était quelqu'un qui avait été choisi par les Américains à l'avance, avec du reste la médiation de l'émir du Qatar.
Ça veut dire que vous imaginez quelqu'un du régime en place disponible, avec un entourage, disponible à faire le lit des intérêts américains et qui se maintiendrait au pouvoir malgré le renversement du régime?
Alors ça, c'est sans doute une hypothèse qui serait celle qui plairait le plus à l'environnement régional, parce que ça éviterait une fragmentation incontrôlable.
Le changement dans la continuité.
D'une certaine manière, oui. Pour l'instant, de toute façon, le régime iranien, qui en est bien évidemment averti, ne semble pas avoir donné pièce à cette perspective. Alors, qu'est-ce que l'attaque américaine éventuelle pourrait donner? Je ne sais pas. Mais probablement, est-ce que les décisions sont en train d'être pesées à la Maison Blanche, si tant est que Trump veuille s'engager, parce qu'il faut bien voir que l'essentiel de l'effort militaire américain qui avait quitté l'Amérique du Sud, l'hémisphère ouest, comme on l'appelle maintenant à Washington, pour se focaliser sur le Moyen-Orient. Une grande partie des troupes, des porte-avions, etc., sont aujourd'hui face au Venezuela. Et donc, il n'y a plus la même disponibilité sur place de l'armée américaine.
Gilles Kepel, c'est le silence côté chinois et russe. Les alliés traditionnels de l'Iran sont occupés ailleurs.
Alors, en effet, la Russie est très occupée en Ukraine. Les relations avec l'Iran sont moyennes, puisque pendant la guerre des 12 jours, du reste, un certain nombre d'Iraniens dans le pouvoir s'étaient dit que la Russie, au fond, les maintenait juste le nez au-dessus de l'eau, mais ne les avait pas beaucoup aidés. Les Chinois alors font du commerce. Ils sont préoccupés parce que, justement, l'effondrement du système Maduro au Venezuela, aussi exportateur de pétrole sous embargo, comme le pétrole iranien, il y avait une espèce de syndication de ce pétrole sous embargo qui transbordait vers la Chine à travers des bateaux au large des Philippines, etc. Tout ça est aujourd'hui assez impacté par la chute du système vénézuélien. Donc, la Chine regarde les choses venir dans une situation qui n'est pas très favorable pour elle.
L'opposition ou les oppositions, on a parlé du fils du chat, prêt à rentrer dans son pays, à assurer la transition. Est-ce que c'est sérieux?
Alors c'est difficile à savoir, lui-même est certainement très motivé, il a déclaré au Figaro. L'impact qu'il a en Iran, pour l'instant on a du mal à le percevoir. On a bien sûr des images de manifestants qui brandissent sa photo, mais ça c'est assez simple de faire qu'un manifestant pose pour une photo. Est-ce que pour la majorité d'une population qui est jeune et qui n'a jamais connu le père du chat, le chat qui a été renversé, par ailleurs, il faut bien le dire, d'une certaine manière, la façon dont on voudrait renverser aujourd'hui le nouveau chat religieux qui est Khamenei, je ne suis pas convaincu a priori qu'il ait une popularité intacte. Maintenant, ça peut vouloir être la chute. Mais au fond, d'une certaine manière, qu'on se réfère à quelque chose d'aussi ancien, que la dynastie Pahlavi indique peut-être aussi la faiblesse d'une opposition qui n'a pas trouvé à l'intérieur d'elle-même la ressource pour faire tomber le système des Mollahs.
Un dernier mot, Gilles Kepel, je vous ai écouté très attentivement. Les fondamentaux iraniens se sont effondrés, ça n'est plus une puissance régionale aujourd'hui. Et vous me l'avez dit hier, hein, quand on a préparé l'entretien, vous m'avez dit on est au bout d'un processus qui a commencé le 7 octobre, il y a 2 ans.
Oui, quelque chose de paradoxal, puisque le 7 octobre, on avait le sentiment que c'était le Hamas qui avait pris l'initiative pour forcer la main aux Iraniens. Et effectivement, le 7 octobre a très fortement impacté négativement Israël. C'est la situation après la guerre d'anéantissement à Gaza en particulier est très mauvaise pour l'image d'Israël dans le monde. Mais le paradoxe, c'est que ce qui s'est passé après, c'est tout le système iranien qui s'est effondré. Le Hezbollah est réduit à pas grand-chose, le régime syrien est tombé, le Hamas maintient encore la terreur à Gaza, mais n'est pas capable de se projeter. Donc, d'une certaine façon, c'est le 7 octobre qui, paradoxalement, a plombé, si j'ose dire, l'Iran d'aujourd'hui. Et c'est ça le paradoxe tout à fait stupéfiant de cette histoire.
Une bonne raison de lire ou relire ce que vous aviez publié à la fin de 2024 ou 2023, c'est-à-dire le bouleversement du monde à partir de cette date historique du 7 octobre. Lire également Antiterrorisme, ces deux ouvrages sont parus chez Plon. Et puis, il y a mon petit chouchou, c'est Prophète en son pays, paru, lui, aux éditions de l'Observatoire. Gilles Kepel, au micro de Radio Classique, merci. À bientôt, merci pour ces lumières.
Radio Classique, rediffusion de la matinale d'hier.
Hervé, bonjour.
Bonjour.
Dans la presse du jour, on lance des alertes.
Alerte démographique d'abord. Les chiffres dévoilés hier par l'INSEE sont en une de plusieurs journaux. La natalité en berne, titre La Croix. Démographie en berne, annonce Ouest France. Le nombre de naissances a diminué de 2,1% en 2025 par rapport à 2024. 645 000 naissances, c'est le plus bas niveau depuis 1942. Le problème est d'autant plus inquiétant qu'il y a eu plus de décès que de naissances en France, constate Le Monde. Le Figaro évoque un tournant démographique. Le journal relève que le croisement des courbes de la natalité et de la mortalité survient 10 ans plus tôt que l'INSEE ne l'avait prévu. Et il y voit notamment un effet de la crise du logement.
L'éditorialiste des Échos s'attarde, lui, sur les conséquences de cette situation.
Conséquences vertigineuses, écrit Dominique Seux, car si la dénatalité n'est pas une spécificité tricolore, comme il dit, elle pèse déjà sur nos équilibres sociaux et budgétaires. Les plus de 65 ans sont déjà aussi nombreux que les moins de 20 ans, écrit-il. Financièrement, il va manquer de plus en plus d'actifs pour payer les retraites des plus âgés, sauf si, et c'est l'autre conséquence presque inéluctable, l'immigration supplée aux bras manquants. La raison commande de ne pas fermer cette porte, écrit Dominique Seux, mais comment concilier ce constat factuel avec la volonté de mieux contrôler les frontières? C'est là que le sujet quitte la science démographique pour devenir politique, conclut l'éditorialiste. Il sera déterminant dans la campagne présidentielle de 2027 et, il faut l'espérer, loin des clichés et des fantasmes. C'est ce qui s'appelle un vœu pieux.
Une autre alerte sur un autre front, le quotidien L'Opinion décrit ce qu'il appelle le crash de l'agroalimentaire français.
C'était un de nos fleurons nationaux, ce n'est plus vrai. L'agroalimentaire reste la première industrie française, mais tous les indicateurs se dégradent et sont maintenant dans le rouge. Le journal L'Opinion a eu accès à une étude de la Banque de France sur l'état et la rentabilité du secteur. Elle montre un effondrement des marges les plus faibles de toute l'industrie française, principalement à cause des taxes et des normes sanitaires. En 10 mois, l'agroalimentaire français a accumulé 10 milliards d'euros de déficit commercial. Voilà qui éclaire le désespoir du monde agricole. Le président de l'Agence nationale des industries alimentaires, agriculteur lui-même, s'alarme, toujours dans L'Opinion. L'agroalimentaire est un secteur atomisé, composé à 98% de TPE et de PME. Les entreprises se cassent la figure, mais à la différence de l'automobile ou de la sidérurgie, la casse se fait à bas bruit. Les dégâts sont là, mais on le constate trop tard. Notre secteur, dit-il, subit une mort lente, une agonie.
En Iran, le cycle des protestations et de la répression, on en a parlé à l'instant avec Gilles Kepel, je vous recommande, si vous l'avez manqué, le podcast. La répression continue, mais il est difficile d'en mesurer l'ampleur.
C'est une autre agonie, infiniment plus bruyante, car son écho parcourt la planète, mais peu visible, car le régime a bloqué Internet depuis 4 jours. Malgré le blackout des communications, coupant du monde les 92 millions d'Iraniens, écrit La Croix, de rares images montrent que rien n'arrête la répression féroce. Par exemple, cette vidéo filmé le 11 janvier à la morgue de Karizak, au sud de Téhéran. Des hommes et des femmes en pleurs tentent d'identifier leurs proches parmi les dizaines de corps enveloppés dans des sacs. Le Figaro cite une habitante de Téhéran qui a pu lui envoyer une note vocale grâce à une connexion Starlink. Le régime a sorti son épée, il tue sans retenue, dit-elle. La communauté internationale ne doit pas détourner le regard, elle doit réagir fermement et au plus vite. De son côté, le site slate.fr relève que des centaines de victimes perdent des yeux. C'est une pratique volontaire de la police en Iran, explique Slate, où viser les yeux signifie symboliquement retirer à la victime toute capacité d'existence politique. Il ne faut donc pas parler d'une répression aveugle en Iran, mais d'une répression aveuglante.
Libération consacre sa une à l'explosion de la consommation de cocaïne en France. C'est encore une façon de lancer une alerte.
Car la situation est alarmante. En France, la coke coule à flot, résume Libération dans un dossier très détaillé de 4 pages, ce qui fait beaucoup de lignes. La poudre blanche constitue le trafic le plus lucratif sur le marché de la drogue. Plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires d'après les experts, l'équivalent de celui de Nexity, leader de l'immobilier, plus que Coca-Cola en France. En 2023, plus d'1 million de personnes auraient consommé au moins une fois de la cocaïne. Aujourd'hui, tu trouves plus facilement de la drogue que du shit, confie Fabien, demandeur d'emploi dans le Maine-et-Loire. À Toulouse, Jean-Philippe résume, tu fais un clic, 2 bornes et t'as ton truc. C'est plus facile que de trouver une baguette. Léo, dans l'Ardèche, complète, c'est moins cher que de partir en vacances. Convenons que ça ne fait pas le même effet. D'après Libération, le nombre de morts impliquant la cocaïne a doublé depuis 2020. La coke a tué 259 personnes en France en 2023. Et les passages aux urgences liés à cette drogue drogue ont triplé en 10 ans.
On termine avec le procès de Marine Le Pen et du Rassemblement National qui s'est ouvert hier devant le tribunal de Paris. Tous les journaux confirment le changement de ton de Marine Le Pen.
Défense profil bas, diagnostic Le Parisien qui raconte la première prise de parole de Marine Le Pen hier à l'audience. Sur la forme, un ton doucereux qui tranche avec l'agacement à peine masqué du premier procès. Et sur le fond, l'absence d'intentionnalité, refrain entonné par la majorité des prévenus, puisque comparaissent aussi 10 autres cadres du RN. Ouest-France évoque une défense moins offensive. « Je n'ai aucun sentiment d'avoir commis un délit », a dit Marine Le Pen, cite Le Figaro. La dirigeante du Rassemblement National est allée jusqu'à reprocher au Parlement européen de n'avoir pas joué son rôle d'alerte. Mais il y a des alertes parfois que l'on n'entend pas. C'est en tout cas le Parlement européen qui a déclenché l'enquête. Après avoir entendu la présidente du tribunal résumer hier les charges, le chroniqueur judiciaire du Figaro constate qu'une présentation la plus neutre possible ressemble à un réquisitoire implacable. C'est dire que les faits sont corsés. Jadis, un slogan du Front National disait « Tête haute, main propre ». Faire profil bas aujourd'hui ne sera peut-être pas suffisant.
Hervé Gattegno, la revue de presse, chaque jour un peu après 8h30 sur Radio Classique.
La matinale de Radio Classique avec David Abiker.
Et nos esprits libres du mercredi, aujourd'hui Nicolas Bétou, directeur de l'Opinion, et Routel Krief, éditorialiste à LCI. Merci à tous les deux d'être là ce matin.
Bonjour.
Commençons par l'Iran.
Bonjour à tous.
Et Route, vous dites, la presse européenne sur l'Iran, sur ce qui s'y passe, et notamment la presse française, a eu du retard à l'allumage.
Moi, je suis très frappée, en effet, et pardon, hein, je vais citer LCI et l'émission David Pujadas qui a été sur cette affaire iranienne fondamentalement présente. Ah. J'ai été très, très surprise de voir à quel point les agences, les médias mainstream, entre guillemets, ont mis beaucoup de temps avant de passer de des manifestations contre la vie chère, à des réelles, une forme de révolution contre le régime islamiste, islamique même, en l'occurrence romainiste. Et j'étais assez choquée de voir un peu que il y a eu du temps pour un certain nombre de journalistes français. Je parle pas de l'Opinion, je parle pas du Figaro, mais sincèrement, à l'AFP, à d'autres, il y a eu une forme de retard à l'allumage, comme si c'était pas évident que c'était une forme de révolte profonde contre le régime et qui, hélas, est devenue un massacre à huis clos. Alors, peut-être, ça a été aussi le cas de partis politiques. Comment la gauche a regardé, s'est beaucoup plus intéressée au Venezuela, au coup de force de Trump, qui est évidemment contestable, mais en même temps faire des manifs pour Maduro le week-end dernier, alors que des milliers de gens mouraient à huis clos, alors qu'Internet était coupé en Iran, c'est extrêmement choquant.
Oui, mais les manifs pour Maduro, c'est pas la presse.
Non, mais je veux dire par là, il y a une forme, globalement, d'ignorance, d'indifférence d'expectation, vous voyez, un peu de distance par rapport à ce phénomène.
Disons les choses, il y a eu une forme de pudeur effarouchée parce que on soupçonnait les États-Unis et Israël d'être derrière ces troubles.
Eh bien.
Dites les choses.
Oui, mais, voilà. c'est extrêmement frappant, c'est absolument anormal de ne pas regarder un phénomène totalement authentique et populaire.
Nicolas Bétou n'est absolument pas de votre avis.
C'est pas absolument pas, mais je le dis de façon assez différente et peut-être de façon moins tranchée. D'abord, je pense que sur la presse, si vous regardez les archives des journaux, vous apercevrez que depuis 2, 3, 5 ans, un certain nombre de manifestations ont été annoncées à tort et un peu trop vite comme le moment de bascule, le point où l'Iran va basculer, etc., etc. Et donc, le fait que les journaux n'embrayent pas immédiatement sur des informations en demeurant assez parcellaires au début et plus encore maintenant puisqu'il y a plus de communication, c'est pas complètement inexplicable. Je comprends votre explication sous-jacente et je veux bien la partager, mais d'un point de vue professionnel, ça n'est pas complètement inexplicable. Mais je pense que c'est l'occasion de se poser une autre question. À quoi sert l'indignation d'un dirigeant politique? À quoi sert-elle? Est-ce qu'elle sert à retenir le bras armé des passe-d'arrant? Est-ce qu'elle sert à faire arrêter un régime qui est embarqué dans une folie répressive? Israël l'a bien compris. C'est intéressant de voir que Israël, pour l'instant, se réserve complètement de réagir publiquement et de donner, au fond, aux dirigeants iraniens l'occasion de souder leur peuple, enfin ce qui reste de défenseurs de ce régime, contre l'agression israélienne ou américaine. Et au fond, ce que je veux dire, c'est
Netanyahou, que Netanyahou, c'est pas désespéré de ce qui s'y passait. Quand même.
Non, mais vous voyez bien qu'il y a pas de, ils sont pas proactifs en parole. Peut-être le sont-ils en sous-main. Mais au fond, la réalité, la leçon de tout ça, c'est que l'indignation ne sert à rien, sauf si on est puissant. Sauf si on s'appelle Trump et qu'on menace de frapper.
Ça peut servir en politique.
C'est vrai.
Et donc l'indignation des dirigeants européens qu'on a attardé à voir et qui aujourd'hui...
Là aussi, voilà. C'est pareil.
Vous comprenez, c'est toujours facile de dire il faut arrêter, mais dans ce cas-là, il faut pouvoir aller jusqu'au bout. Les Européens ne le feront pas. Peut-être Trump le fera. Je ne sais pas quelle est la meilleure des deux solutions.
Non, mais l'indignation, elle est quand même utile. Évidemment, les mots ne suffisent pas et on le dira. Néanmoins, ils sont un minimum. Et moi, je suis désolée, j'ai eu l'impression que début janvier, alors l'indignation et le choc et le soutien, les manifestations, la manière de rappeler, d'expliquer ce qui se passe, a commencé il y a quelques jours seulement, réellement à être en une des journaux, alors que c'était quelques petits papiers perdus dans les pages intérieures. Et ça, c'est assez problématique. Pour moi, ça reste une question. Parce que, il y a eu d'autres problèmes, et effectivement, le Proche-Orient, globalement, a été en une, et avec combien d'excès, et avec combien d'abus, parfois. Et donc, c'est le côté deux poids, deux mesures aussi, qui m'a posé problème.
Il y en a qui n'ont pas ce problème, ce sont des révoltés en France, ce sont les paysans. Le conflit rebondit en fait, de problème agricole en problème agricole, ce conflit rebondit. Alors, le dernier épisode en date, les agriculteurs ont semble-t-il quitté Paris après la promesse de Sébastien Lecornu d'une loi d'urgence, mais... En ligne de mire, il y a le salon de l'agriculture. L'agriculture croule sous les problèmes en fonction des filières, parce que c'est pas les mêmes sujets en fonction des métiers agricoles. On n'en finit pas, Nicolas Bétou.
On n'en finit pas et on a l'impression de revivre, une comédie assez tragique. Je vous fais une citation. J'ai demandé à la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, de préparer pour le Salon de l'Agriculture une loi d'urgence agricole autour de plusieurs priorités, eau, prédation, moyens de production. Voilà ce que Sébastien Lecornu a dit hier. Vous vous rendez compte, on est en pleine crise, on sait que tout ça est en train de se nouer d'une façon terrible pour un certain nombre de filières. Et pour la énième fois, un Premier ministre dit « J'ai demandé au ministre de l'Agriculture de préparer une loi d'urgence sur des sujets comme l'eau, la prédation. » C'est incroyable qu'on n'ait pas encore, en France, la capacité de comprendre que le sujet doit être traité de façon globale, c'est-à-dire en attaquant l'ensemble de la filière jusqu'à la grande distribution, qui fait des pressions sur l'agroalimentaire, qui elle-même, cette industrie qui elle-même d'ailleurs est en grave déclin, et qui fait pression sur les agriculteurs. Et je ne comprends pas que, d'abord que ces crises agricoles qui sont maintenant quasiment annuelles ne soient pas prévisibles et ne soient pas gérées à l'avance, et je ne comprends pas qu'on puisse imaginer aujourd'hui que l'annonce d'une loi d'urgence va régler le problème.
Non, je crois que c'est effectivement un secteur qui va très mal, qui a un problème profond de compétitivité, puisque nous sommes plus, et c'est l'opinion qu'il raconte très bien, l'agroalimentaire n'est plus en pointe en France alors que c'était une de nos richesses. Donc la question, elle est beaucoup plus large. Il faut arriver à être compétitif avec nos propres voisins européens, pas même pas seulement le Mercosur, même pas seulement les importations étrangères. Et donc, on n'arrive pas à affirmer cette réalité, à transformer les choses, ça c'est clair, et on va de crise en crise. Et j'ai bien peur que ça ressemble à une forme d'agonie et qui essaye d'être accompagnée par des bouts de scotch, des bouts des pansements qui ne suffiront pas. Mais c'est vrai que, alors là, en l'occurrence, ce projet de loi, il est censé être voté très vite, en mars, etc.
Vous la question d'un projet de loi d'urgence sur un sujet qui est,
bien sûr,
qui est
bien
tellement
sûr.
Ancien.
Enfin, la question, elle est que on est dans une situation politique globale qui est tellement complexe et tellement pataugeante, où tout le monde patauge, où personne ne voit clair, que tous les acteurs de la société française, effectivement, je veux dire, les médecins libéraux font grève, les agriculteurs sont malheureux, il y a un sentiment de délitement, effectivement, qui est lié aussi au délitement de la vie politique.
Une question, Nicolas Bétou, et peut-être que Ruth a aussi la réponse, c'est que dans les années 50-60, on structure la politique agricole commune. De Gaulle parle d'indépendance alimentaire. On arrive à avoir une vision globale, et pourtant, c'était il y a 60 ans, il n'y avait pas d'informatique, on était peut-être moins intelligents
à l'époque. Les sujets étaient moins complexes.
J'en sais rien, peut-être les sujets étaient moins complexes, mais on arrivait à avoir une vision globale des choses et à dire, ben voilà, on va faire une politique structurante et structurelle. Pourquoi on n'y arrive plus aujourd'hui?
Alors, je vais vous faire une réponse que j'aurais peut-être détournée, mais je pense qu'elle est essentielle. Vous savez qu'il n'y aura pas de vaches ou très peu de vaches au salon de l'agriculture à Paris,
à cause de l'épidémie.
Mais moi, je rêve d'un salon agriculture sans animaux, où il n'y a que du matériel agricole, que des GPS, que des systèmes d'ultra-performance, que des systèmes qui montrent que l'agriculture est aussi dans une grande évolution industrielle et technologique.
Mais qu'est-ce que vous faites du concours du plus beau cochon?
On trouvera un endroit pour le faire ailleurs. Mais attendez, je voudrais finir là-dessus parce que c'est très important. Au fond, depuis 1950, la France a refusé d'admettre, les Français ont refusé d'admettre que les paysans, que les agriculteurs, c'était autre chose que des gens qui doivent conserver le paysage et des petites exploitations. Nous avons besoin d'industrialiser les exploitations. Pour industrialiser les exploitations, nous avons besoin de les agrandir. Pour les agrandir, nous avons besoin de libérer des normes. Pour exploiter ces exploitations, il faut du matériel, de la technologie. Au fond, les animaux, c'est très bien pour les petits Parisiens qui viennent s'encanailler en regardant, en respirant des odeurs de poulailler et en regardant comment est-ce que les cochons fouillent la paille. Mais honnêtement, le plus important pour l'agroalimentaire et pour l'agriculture en général, c'est comment est-ce que je me modernise, quels sont les matériels, les techniques, les technologies que j'ai à ma disposition.
Ça existe, ce que vous décrivez existe déjà. Il y a des exploitations absolument modèles.
C'est ça qu'il faut mettre en valeur.
Tout à fait.
Salon de l'automobile, c'est pour mettre en valeur les modèles iconiques.
Mais ça existe déjà, elles existent, elles se développent et elles doivent être le modèle. Vous avez tout à fait raison. Mais il ne faut pas non plus décrire l'agriculture française seulement comme de toutes petites exploitations parcellisées. Il y a des chefs d'entreprise agricoles qui sont formidables, qui font évoluer leur structure et qui sont à la pointe des technologies. Mais oui, c'est compliqué pour les plus petites qui veulent subsister. Il y a une vraie question là-dessus.
Et, je veux le préciser, même dans les petites exploitations agricoles, il faut le dire, les agriculteurs sont fous de technologie. Ils adorent le matériel agricole.
Et ça les aide, bien sûr.
Ils n'ont cessé de s'endetter pour moderniser leur matériel. Et je peux dire que, grande ou petite exploitation, les paysans s'intéressent à la technologie. Mes amis, c'est terminé. Nous allons nous séparer avec Gabriel Fauré et Étienne Dao, figurez-vous. Étienne Dao qui, en 2018, a enregistré Ici-bas, un poème de René-François Sully Prudhomme sur une mélodie de Gabriel Fauré. Donc, Étienne Dao, pourquoi je vous en parle et pourquoi on va l'écouter? C'est parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Écoutez comme c'est joli et tendre.
Ici-bas, tous les lilas meurent, tous les chants des oiseaux sont courts. Je rêve, vous étiez qui demeure toujours. Ici-bas, les lèvres effleurent sans rien laisser de leur velours.
Radio Classique. Vous écoutiez une rediffusion de la matinale d'hier.
Radio Classique. La musique avant tout.
Bonjour à tous. On célèbre les 200 ans du plus vieux journal français, le Figaro. Figurez-vous, quand je dis le plus vieux, grand quotidien, bien sûr. Parce qu'il y a des feuilles qui sont aussi très anciennes. Thank you.
grand dossier de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique.
Paris, nous sommes en janvier 1826 et le vent s'infiltre, siffle dans les immeubles du boulevard Saint-Germain. Les gens pressent le pas, remontent un peu leur col. Les fiacres lèvent des éclaboussures et un peu de verglas même sur le pavé. Et dans un grenier du boulevard, deux jeunes hommes sont là. Dans l'odeur encore fraîche de l'encre, il y a une odeur de cire fondue. Ils ont les doigts et les mains tout maculés de noir. Il y en a un qui s'appelle Maurice Allois, il a 24 ans. C'est un ancien clerc qui est devenu journaliste. Oh, un personnage ironique, très érudit, qui a l'œil sur les travers de ses contemporains. Et quant à l'autre, c'est le frère du grand savant François Arago. Il s'appelle Étienne Arago, touche à tout. Il est à la fois dramaturge, directeur de théâtre. Un jour, il sera maire de Paris, hein, sous la Seconde République. À eux deux, ils ont un projet, faire rire sans se faire interdire. Ce qui est très compliqué dans l'époque où nous sommes. On est en 1826, au début du règne de Charles X. Ça fait un peu plus de 5 ans, ça fait 6 ans qu'a été assassiné le duc de Berry. Publier un journal qui soit à la fois piquant, rieur, agile, distrayant, mais évidemment sans doute inquiétant pour certaines gloires établies, mais qui ne doit pas non plus trop déranger le pouvoir en place. Vous voyez, c'est subtil. Ce soir-là, Allois sort de la Comédie-Française où l'on redonne le mariage de Figaro. Il a entendu la fameuse tirade du barbier, hein. Pourvu que je ne parle en mes écrits ni de l'autorité, ni du culte, ni de la politique, ni des gens en place, je puis tout imprimer librement sous l'inspection de 2 ou 3 censeurs. Évidemment, la salerie, ça fait rire, ces mots qui datent de 1778, mais qui, sous le règne de Charles X, en cette période où la censure de nouveau corsette la presse, résonnent d'un étrange écho. Et ça amuse Allois, qui sort avec une certitude de cette représentation. Son journal s'appellera Le Figaro. Ce sera un journal satirique, spirituel et batailleur. Voilà comment il le définit. Alors l'équipe s'installe dans ce petit local du boulevard Saint-Germain, on dit le Faubourg à l'époque. Le Figaro paraît le 15 janvier 1826, ça paraîtra une fois par semaine à l'époque. C'est un petit journal de 4 pages, hein, qui est vendu au numéro ou par abonnement. C'est un abonnement qui n'est pas neutre, hein, 60 francs par an de l'époque. Le papier est mince, les caractères sont serrés. En tête de page, une figure rieuse qui a en bandoulière sa mandoline et qui écrit sur son genou, c'est bien sûr Figaro, vous l'avez reconnu. Il donne au journal son esprit, il lui donne en quelque sorte son impertinence native. Allois signe ses textes sous les noms de Chérubin ou Bartolo, et qu'on reste dans l'univers de Beaumarchais. Arago devient Almaviva. On parle de théâtre, d'art, de morale, de scandale, bien sûr. Officiellement, pas de politique, sauf que quand même, on arrive à décocher parfois des flèches un peu dangereuses. Je pense à l'élection du duc de Montmorency à l'Académie française. Montmorency qui n'avait jamais rien écrit. Le Figaro persifle, je cite, « Monsieur le duc de Montmorency, restaurateur, ne se sert plus de papier écrit pour envelopper ses côtelettes. » Comprenne qui pourra. Bref, vous avez compris que le journal se veut satirique pour piquer les ultras, railler les jésuites, s'amuser des mœurs du temps. C'est une sorte de fête de l'esprit français, à la fois féroce et élégant, si vous voulez. Nous étions tous méchants sans méchanceté, cruels sans le savoir, dira plus tard Jules Janin. Avec une audace qui paie, puisque dès 1828, c'est Stendhal en personne qui va saluer cette feuille comme, je cite, « le plus divertissant de nos petits journaux littéraires ». Eh oui, ça commence à se savoir qu'il y a ce journal amusant, irrévérencieux et fort en même temps. Bon, dans la réalité, c'est pas si simple que ça. Allois est obligé de distribuer les numéros lui-même. On le voit juché sur un cabriolet pour masquer la maigreur du lectorat. Il faut quand même avoir l'air d'avoir un certain standing, hein. C'est un dandy, Allois, je vous l'ai dit, mais c'est un dandy ruiné. 2 mois après la création, il est obligé de céder le journal, et ça va être plusieurs années de rachat, d'interruption, de reprise. Le Figaro va tomber, renaître, et à plusieurs reprises. C'est à chaque fois comme une sorte de phénix qu'on voit renaître comme ça, mais Ce qui est certain, c'est que d'ores et déjà, le ton est posé, et la forme, et l'esprit.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors le tournant décisif, ça va être 1854, vous voyez qu'on passe un peu de temps, c'est l'arrivée à la tête du Figaro d'un homme qui est à la fois détesté et admiré, c'est Hippolyte de Villemessant. C'est pas un fondateur, mais ça va être le bâtisseur de quelque chose de nouveau, puisqu'il va transformer cette feuille spirituelle un peu fragile en une véritable institution de la presse moderne. Alors, faut imaginer Villemessant, personnage romanesque, hein, tout droit sorti des illusions perdues. On est 3-4 ans après la mort de Balzac à ce moment-là. Hein. Et à lui seul, il incarne le passage d'un journalisme de salon à ce qu'on pourrait déjà qualifier, grâce à certaines révolutions dans le monde de la presse, de journalisme de masse. C'est un autodidacte, Villemessant, il était né hors mariage, on peut dire qu'il a tout connu, les faillites, les procès, il est même allé en prison pour dette. Il a fondé toutes sortes de journaux, souvent éphémères, il a l'art de flairer l'air du temps, il comprend les choses avant les autres, et il comprend notamment, avant les autres, que le journalisme va devenir, au-delà d'un art qui jusqu'alors amusait les salons, va devenir une véritable industrie s'adressant à toute la population. Quand il reprend le Figaro, il impose ce style concis, alerte, drôle. Il ajoute une devise empruntée justement à Beaumarchais, hein, « Je me hâte de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer ». L'esprit français devient son étendard. Villemessant ne rédige pas une ligne lui-même, c'est pas un auteur, mais il repère les plumes, mais il aiguillonne les uns, mais il réfrène les autres. Il forme son petit monde. Il veut du rythme, Villemessant. Il veut du panache et du mordant. Et sous sa direction, le Figaro va devenir quotidien. On est là en 1866, hein, vers la fin du Second Empire, ce qu'on appelle l'Empire libéral. Il va d'ailleurs payer le cautionnement pour avoir le droit de parler d'affaires politiques. Le journal gagne en ampleur, en ambition, mais la vérité, c'est que ce qui révolutionne le Figaro est ailleurs. Villemessant est en train d'inventer une nouvelle manière de faire le journal. Il va structurer la publication en rubriques qui sont comme des rendez-vous pour les lecteurs, un peu comme les rayons d'un grand magasin, si vous voulez. Les lecteurs doivent pouvoir facilement aller trouver ce qu'ils cherchent en priorité. Je cite Villemessant. Il est indispensable que le lecteur sache où il trouvera la causerie, les échos de Paris, ceux de la chambre, les tribunaux, le rayon des faits divers, celui des théâtres, etc. C'est donc une organisation thématique qui, aujourd'hui, nous paraît évidente, mais qui, à l'époque, était une innovation incroyable. C'est lui aussi qui va lancer les petites annonces en France. En 1860, il a fait publier une simple recommandation pour un concierge, et ça a été un énorme succès, ce qui fait que dès 1875, le Figaro peut consacrer une page entière à ces fameuses annonces qu'on va appeler d'ailleurs pendant longtemps les annonces du Figaro. L'exemple vient d'Outre-Manche, bien sûr. Villemessant comprend que ces annonces sont une source de revenus, mais aussi un service aux lecteurs, puisqu'on offre des emplois, des objets perdus, des locations, des ventes, enfin, etc. Ça va faire du journal une sorte de carrefour social. Et c'est lui aussi qui invente le principe du hors-série. Il invente aussi les cadeaux pour les abonnés. On leur offre des montres, des almanachs, des facsimilés, des recettes de cuisine. Vous voyez qu'on n'a rien inventé. Il crée les premières annonces d'obsèques également, qui sera plus tard le célèbre carnet du jour, bien sûr. Et il organise les dîners du Figaro. Alors là, c'est pour mettre en contact des écrivains, des artistes, des journalistes, et puis un public qui veut bien y participer. Bref, vous voyez que tout est en train de se mettre en place. L'autorité de Villemessant n'est pas remise en cause. Quand un article ne lui plaît pas, il remet à l'auteur une canne en jonc. « Allez vous promener », dit-il. Et quand un chroniqueur s'ennuie, il dit « Pas de duel cette semaine, pas de procès, mauvais chroniqueur, messieurs !» Dans l'espace culturel, il va imposer une autre nouveauté, des critiques de théâtre qui paraissent dès le lendemain des premières. Ce qui donne au journal une réactivité rare et surtout une importance considérable dans la vie culturelle parisienne. Il fait également appel à des plumes de premier ordre, qui sont souvent encore des gens inconnus, mais qui vont se faire connaître. Je pense à Alphonse Daudet, qui va publier là ses premières lettres de Montmoulin. Jules Janin, je vous le disais, grand critique. Jules Claretti, le futur académicien. Charles Moncelet, Jules Vallès, Ferdinand Fabre, Rochefort, Barbet d'Aurevilly, tous vont fréquenter la rédaction de Monsieur de Villemessant. Même Charles Baudelaire, pourtant éreinté par le journal à la sortie des Fleurs du Mal, même Baudelaire, plus plus tard publiera des articles sous le titre « Le peintre de la vie moderne ». Quand Villemessant vient à mourir, on est en 1879, on peut plus parler de feuille à propos du Figaro. Hein. C'est devenu un grand journal, et c'est même devenu beaucoup plus que ça. C'est devenu un véritable pouvoir. Alors, ce ne sont pas les noces de Figaro, mais c'est Figaro quand même, puisque vous venez de reconnaître l'ouverture du Barbier de Séville de Rossini par le National Philharmonic Orchestra sous la direction de Ricardo Chailly.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Quand un journal dure, et dure deux siècles, vous imaginez, évidemment, il ne peut qu'accompagner l'histoire du pays, en l'occurrence l'histoire de France. Là où tant de journaux, parfois très populaires, je pense au Petit Journal, bien sûr, mais aussi au Petit Parisien, à l'Aurore, au Gaulois, France Soir, etc., ont disparu. Alors, France Soir n'a pas disparu du net, mais enfin a disparu comme imprimé. Le Figaro, lui, a survécu à toutes sortes de mutations économiques, de changements de goût, de bouleversements politiques. Et pourtant, il a fallu en traverser les crises. Hein. Bien sûr, d'abord et avant tout, l'affaire Dreyfus, vous imaginez la grande cassure de la fin du 19e siècle et du tout début du 20e. Lors de l'affaire, Le Figaro est sous la direction de Fernand de Rodet, qui est un journaliste monarchiste, orléaniste modéré, qui, dans un premier temps, va adopter une posture prudente, et puis, peu à peu, va s'engager de plus en plus clairement en faveur du capitaine, et ce, à l'automne 1897, c'est-à-dire 3 ans après les débuts de l'affaire. Le journal va publier des articles de Zola, de Scheurer-Kestner, de Huret, de Vidi. Il va mener l'enquête sur Esterhazy. C'est sur Esterhazy, c'est dans le Figaro qu'on va trouver hein, les célèbres pages sur Esterhazy. Bref, cet engagement, et ça jouera un rôle essentiel dans l'affaire d'ailleurs, c'est un engagement qui dans la presse conservatrice n'est pas très fréquent, ça vaut certainement des désabonnements, et même des désabonnements massifs et des pressions très fortes sur la rédaction du Figaro, et une hostilité d'une partie du lectorat, mais ça permet en tout cas de maintenir la ligne. Et sous la menace, le patron du Figaro va céder temporairement la direction à son co-directeur, qui s'appelle Antonin Périvier, qui lui est un Dreyfusard, on va dire, plus discret peut-être. Et quand l'innocence du capitaine Dreyfus va être prouvée en 1906, vous imaginez bien que le Figaro pourra s'offrir le luxe de participer pleinement à la réhabilitation d'Alfred Dreyfus. C'est Gaston Calmette qui dirige le Figaro à ce moment-là, lui-même Dreyfusard modéré. Son nom, vous le savez, reste associé à une autre crise, hein, puisque en mars 1914, l'épouse du ministre des Finances, Madame Caillot, Henriette Caillot, va venir, pour laver l'honneur de son mari qui a été beaucoup attaqué dans les colonnes du journal, va venir abattre dans son bureau Gaston Calmette. Meurtre politique, onde de choc national, on est juste là à la veille de la Première Guerre mondiale, hein, mars 1914, et surtout qu'il va y avoir un procès passionnément suivi à l'issue duquel l'accusé se trouve acquitté, vous imaginez ? Ensuite, il y aura donc la Grande Guerre, l'entre-deux-guerres caractérisé par un climat de tension incroyable, et puis cette défaite de 14, Le Figaro passe tout de suite en zone libre. Depuis Lyon, il va continuer de paraître. C'est un journal qui soutient, comme tous les journaux de l'époque, le maréchal Pétain, mais qui va cesser de paraître dès novembre 1942, quand la zone libre est envahie par les troupes allemandes. Il n'y a pas de collaboration du Figaro. Et ça lui permettra de paraître dès la libération, dès le 23 août 44, même juste avant la libération de Paris. Et là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre, hein, et évidemment. Le Figaro veut devenir un acteur majeur de cette France qui est en train de se réinventer dans l'après-guerre et la reconstruction.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Alors, pour évoquer ces 200 ans, il y a un hors-série, évidemment, publié par Le Figaro, et c'est Michel de Gégère qui interviewe le patron, Alexis Brézé, sur l'histoire et sur les permanences du journal. Voici ce qu'on peut lire. Le Figaro a commencé comme une feuille littéraire très axée sur le théâtre. À l'époque, sous la Restauration ou le Second Empire, il était très difficile pour un journal de parler de politique à cause de la censure. Souvent, la politique était abordée à travers le genre littéraire, soit sous une forme codée, soit sous une forme satirique. Le premier Figaro était d'abord une feuille de critique théâtrale. Il lui en est resté le goût pour l'écrit, pour le style, pour toutes les formes de la création littéraire et en même temps, une tradition d'indépendance. Dépendance d'esprit. Je pense que Alexis Brézé décrit très bien le sujet, en fait, hein. C'est-à-dire de grands auteurs et une forme d'indépendance. Il y a toujours un petit peu ce côté impertinent qui fait la substance même du journal. Et puis, ces grandes plumes. Donc ça, c'est fondamental parce que ça va être, si j'ose ce jeu de mots, la signature même du Figaro. Alors, j'ai déjà cité pas mal de plumes. J'ai pas encore cité Marcel Proust, évidemment, hein, qui a beaucoup publié dans le Figaro, et notamment un certain nombre de pages de la recherche. J'en parlerai dans le bonus. Il faut citer aussi, bien sûr, Madame Colette, et puis Pierre Loti, et François Mauriac, et Paul Valéry, et André Mauroy, évidemment. Et puis Joseph Kessel, et Maurice Druon. On peut citer Raymond Aron, hein, dont l'indépendance d'esprit n'a pas toujours plu à toutes les époques, mais qui a fait entendre une voix très particulière à l'époque gaullienne notamment, et puis citer l'élégance de Jean d'Ormesson, bien sûr, la finesse de Dominique Bonnat, l'amour des lettres de Jean-Marie Roire, etc. On ne peut pas citer tous les grands auteurs, hein. Il y en aurait tellement, je renonce, Félicien Marceau et d'autres. Et notre cher Alain Decaux, bien sûr. Le Figaro, c'est aussi, bien sûr, ce journal qui était à la une, hein, ce dessin qui était à la une du journal, hein, le dessin de Jacques Faisant, qui pendant 40 ans a régalé les lecteurs avec ces espèces de petites chroniques dessinées, hein, pleines d'esprit, qui croquaient la vie politique et sociale avec cette ironie douce, un peu tendre, ce trait toujours juste, parfois un peu acéré. Le Figaro, donc, c'est une espèce d'ensemble de tout ça, une histoire riche donc de 200 ans. On peut souhaiter à ce journal de vivre encore 200 ans. Vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de journaux aussi vieux dans le monde, hein. On les compte sur les doigts des deux mains. Évidemment, vous avez le Times de Londres qui, lui, date de 1785. Je raconte ça dans le numéro d'Historia. D'ailleurs, Historia qui a 116 ans, hein. Je raconte ça dans le numéro d'Historia de ce mois-ci. Vous avez le Times de Londres. Vous avez des journaux autrichiens qui sont encore plus anciens, mais qui maintenant n'existent plus que sous une forme numérique. Or, si le Figaro est très présent sur les médias numériques, il n'en est pas moins toujours un journal qui, quand on le feuillette, peut encore un peu tâcher les doigts.
Vous écoutez Radio Classique. Radio Classique. La matinale écho de Radio Classique avec Stéphane Pedrazzi.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la matinale de l'économie. Une question ce matin, le réarmement de l'Europe doit-il être financé par de la dette commune? Le directeur général de la Deutsche Bank relance le débat avec une prise de position à contre-courant de l'Allemagne. Christian Sewing, le patron de la première banque allemande, estime qu'une dette commune serait logique sur le modèle des Corona Bonds, c'est-à-dire l'émission obligataire européenne qui avait été réalisée au moment de la crise sanitaire. C'est une prise de position importante puisqu'en Allemagne, l'idée d'emprunter en commun avec les autres pays européens est véritablement un sujet tabou. On y reviendra avec Éric Mauban. Au sommaire également, ce matin, le financement de notre système de santé. La grève des médecins libéraux se termine aujourd'hui. Elle aura duré 10 jours. Elle concernait des mesures incluses dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale. Mais le revenu des médecins est-il le vrai problème, la véritable raison de notre déficit colossal du système de santé? Frédéric Bizard, économiste spécialiste de la santé, sera l'invité des Voix de l'économie tout à l'heure à 7h15. 5h59, la météo avec Lénaïque Monnier, bonjour.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Je veux déjà avoir terminé. Forte pluie et coup de vent dans le nord-ouest du pays ce matin.
Oui, d'ailleurs le Finistère est placé en vigilance orange pour des risques de pluie et d'inondation dès à présent. Ailleurs, le ciel est couvert avec des éclaircies et cet après-midi, le front pluvieux va se maintenir sur les côtes